Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand face-à-face au sommaire de l'émission. Comme tous les dimanches, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis, alors que démarre une semaine spéciale consacrée aux événements de mai 68 sur France Inter, nous ouvrirons le débat sur l'héritage de mai 68. Mythe fondateur, crise d'adolescence ou crise de la modernité. Notre invité sera le philosophe et sociologue Jean-Pierre Le Goff. On lui doit l'un des livres les plus importants sur le sujet. Mai 68, un héritage impossible. Et il publie ces jours-ci La France d'hier. Sa vie de jeune homme dans un pays qui s'engageait dans une nouvelle étape de son histoire. Rendez-vous donc à 13h30 avec Jean-Pierre Le Goff.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver tous les deux et un retour sur la semaine qui démarre avec des retraités en colère. Et cet échange, c'était jeudi dernier entre Emmanuel Macron, le président de la République, et une retraitée.
Là, vous nous avez vraiment pompé. Hein.
Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer.
Oh, bah, les retraités, dites donc.
La CSG, on l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc tous ceux qui travaillent touchent plus. Pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Voilà.
Ça fait jamais... on n'est pas content.
Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume.
Il l'assume, le président de la République, et il s'essayait un exercice de pédagogie, Natacha. Convaincant ou pas ?
Ben, c'est un exercice qui est d'autant plus compliqué qu'il y a dans cette question des retraités énormément de non-dits et j'allais dire de symboles divers et variés.
Pourquoi de non-dits ?
De non-dits parce que derrière, il y a la question du rapport entre les générations, notamment en France, c'est assez spécifique. Et c'est assez spécifique parce que c'est d'abord un rapport démographique. C'est-à-dire que les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sont les enfants du baby-boom, on va en parler aussi à propos de mai 68, ce sont ceux qui ont été les plus nombreux à tous les moments de leur existence. C'est-à-dire, enfants du baby-boom, ils étaient plus nombreux que la génération précédente. Et ils, comme ils ont fait peu d'enfants, ils sont plus nombreux que les générations qui suivent. Et du coup, ce rapport de force a sans doute joué dans les organisations, la façon de penser les rapports entre les différentes classes. Mais cela dit, il y a un problème majeur dans la façon dont on a pris, dont on entend parler de ce problème-là, et on le voyait cette semaine, c'est que les retraités, ça n'existe pas. Et qu'en globalisant les retraités, on fait croire qu'il y aurait des intérêts forcément communs au sein d'une même classe d'âge, alors que les différences sont vertigineuses entre les rapports.
Si Emmanuel Macron ne fait qu'appliquer l'une de ses promesses de campagne, à savoir la hausse de la CSG sur un certain nombre de retraités.
Et je pense que la logique qu'il met en avant n'est pas indéfendable. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte d'élargir l'assiette. Ça fait des années qu'on explique que cette assiette est trop étroite. C'est-à-dire de faire en sorte que, l'ensemble des charges ne pèse pas sur les seuls travailleurs dans un contexte où on a un chômage de masse terrifiant.
Raphaël Glucksmann.
Ouais, pour que les critiques soient audibles, il faut quand même prendre en compte ce fait que aujourd'hui en France, contrairement à il y a 50 ans par exemple, la richesse nationale favorise les classes les plus âgées par rapport aux plus jeunes et qu'il y a une vraie misère de la jeunesse française aujourd'hui et que donc dans le cadre d'un effort collectif de redistribution des richesses, c'est pas inconcevable et indéfendable d'imaginer d'appeler des classes plus âgées à contribuer à cet effort. Le problème,
ils sont pas tous riches.
Il est là, voilà. Mais le problème, il est là, c'est que cet effort, il n'est pas global et il n'est pas juste. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron aura du mal à faire passer, parce que la principale inégalité en France, c'est pas une inégalité entre classes d'âge homogènes, c'est une inégalité sociale entre classes sociales. Or là, l'effort de redistribution, il n'est pas demandé aux plus fortunés d'entre nous. Et donc on en revient toujours à ce point que, à mon avis, le gouvernement va traîner comme un boulet, qui est qu'on trouve 5 milliards pour faire l'allègement, enfin diminuer l'impôt sur la fortune, et que par ailleurs, donc on abandonne l'idée d'une redistribution entre fortunés et gens moins fortunés. Et c'est ça. Et au-delà de cela aussi, il y a une autre question qui se pose, c'est la relation du macronisme avec ce qu'on appelle les inactifs. C'est-à-dire que là, on a toute une série quand même de provocations ou de polémiques qui se succèdent les unes aux autres. On trouve les 5 milliards pour les plus riches d'entre nous, on ne les trouve pas pour les EHPAD. On trouve... que les chômeurs doivent être contrôlés parce qu'ils ne veulent pas travailler, que les sans-abri ne veulent pas être abrités. Et donc, il y a un problème. Bien sûr qu'il faut revaloriser le travail, mais comment une société considère-t-elle ceux qui dépendent de la solidarité nationale? Et ça, c'est quelque chose qui est assez problématique chez Macron.
Natacha Polony.
On pourrait ajouter un autre problème qui est la différence de statut et de niveau de vie entre cette part des retraités qu'on peut appeler jeunes retraités, qui font partie justement de ceux qui ont bénéficié des longues carrières, d'un immobilier plutôt faible, d'une inflation qui permettait de rembourser des crédits, et puis ceux qui sont passés déjà dans le quatrième et le cinquième âge, c'est-à-dire dans la dépendance en fait, qui n'a absolument pas été anticipée. Et il y a en fait quelque chose d'assez frappant dans ce problème, c'est que nous allons là payer collectivement une absence totale d'anticipation et de courage politique, mais là où je rejoins Raphaël, c'est dans le fait que tant que le problème, c'est de refuser de sortir du cadre de pensée. À partir du moment où on garde le système tel qu'il est aujourd'hui, en effet, il faut que tout le monde contribue. Le problème est que ce système est fondé sur l'idée que nous devrions accepter ce qui aujourd'hui permet une évasion, une optimisation fiscale à grande échelle, donc un appauvrissement, et qu'après on prend ce cadre-là, ce cadre où il y a une dette, etc., et on dit à tout le monde, et notamment aux retraités, bah écoutez, faut contribuer. D'accord, donc la question c'est comment on fait pour que ce soit les plus riches, pour que ce soit les multinationales qui contribuent à leur juste part, et là, on pourra commencer à discuter. En revanche, il ne faudrait pas que des gens qui votent pour la perpétuation de ce système viennent se plaindre ensuite d'être les victimes de cela.
Encore un mot, Raphaël, sur ce sujet.
Non, la vraie question, c'est celle de la justesse et de la justice, de l'équité. Et il me semble que les retraités accepteraient de contribuer à un effort national à condition, évidemment, que cet effort soit justement réparti. Et c'est ça le problème problème immense qui va miner, à mon avis, la crédibilité du gouvernement dans ces réformes. C'est que la sensation est extrêmement forte que le fardeau n'est pas également partagé en fonction des richesses des uns et des autres.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Deuxième sujet à l'ordre du jour et un droit de suite dans l'émission puisque nous avons déjà croisé la question ces derniers mois. Écoutez.
Les Français ne savent pas qui je suis. Je suis pour l'immense majorité d'entre eux une page blanche. Et donc, nous sommes à nouveau, d'une certaine façon, une page blanche. Notre rassemblement n'est pas une option. Il est un impératif. Quand on part de si loin, quand il y a tant à faire, quand il faut tout changer, tout reconstruire, on a besoin de toutes les énergies et de toutes les forces pour réussir.
Les Français ne savent pas qui je suis. Un homme qui est une page blanche. Vous avez reconnu cette voix, Natacha, Raphaël.
Monsieur Faure.
Exactement. Oui. Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale et qui sera donc désigné premier secrétaire du Parti socialiste. L'homme du salut pour le PS. Je vous regarde l'un et l'autre, Natacha Polony.
Écoutez, je crains, hélas, que Olivier Faure reste pour quelque temps, non peut-être pas une page blanche, mais en tout cas, certainement pas celui que les Français attendaient. Disons qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à voir la différence entre le sympathisant politique, le citoyen, et puis le militant, qui est une race à part. Et là, en l'occurrence, on remarque à chaque fois qu'il y a une élection spécifique avec des militants, à quel point ils choisissent des personnages qui ne sont pas forcément les mieux à même de tirer leur propre parti des difficultés où il est. Mais derrière l'avènement d'Olivier Faure...
Ils ont voté parmi quatre candidats.
Oui, bien sûr, bon.
Enfin, je ne sais pas si dans les quatre,
Raphaël Glucksmann.
Non, il n'y avait pas l'idéal forcément dans les quatre.
Mais je ne pense pas que ce soit une question d'homme. Alors, c'est une page blanche, donc ne le chargeons pas trop. Je ne pense pas que ce soit une question d'homme. Je pense que c'est un problème structurel du Parti socialiste qui a perdu sa crédibilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace. Alors, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je suis convaincu qu'il y a un espace politique. Il y a un espace politique immense entre M. Macron et M. Mélenchon. Il y a un espace politique pour une gauche en France. Ça me semble évident. Et simplement, je des doutes assez forts sur, c'est le cas de le dire, sur la capacité de Monsieur Faure et du Parti Socialiste de constituer cet espace en offre politique.
Cet espace, crédible. une opposition au président de la République et à son gouvernement.
Mais bien sûr, un parti
vous dites
ou un
bien
mouvement.
Sûr, mais un mouvement. Attendez, Raphaël, Olivier Faure, le 9 mai 2017, c'était il n'y a pas si longtemps. Je le cite :« Nous voulons la réussite de Macron. Nous souhaitons participer à cette majorité. » Fin de citation.
Oui, c'est une
Comment va-t-il porter une opposition ?
Tout le monde souhaite la réussite d'Emmanuel Macron.
Non, nous souhaitons participer à cette majorité.
Et par contre, on peut tout à fait comprendre, vu la politique menée par Emmanuel Macron, qu'il y a un espace à gauche qui ne sera pas dans l'adhésion aux réformes et aux discours de M. Macron. Donc là, à mon avis, il y a juste une erreur stratégique dans cette phrase. Et en règle générale, dans cette incapacité du Parti Socialiste depuis fort longtemps, à définir une identité politique.
Oui, alors le problème, à mon avis, Raphaël, est plus vaste que ça. Et d'ailleurs, dans ce vote, finalement, Olivier Faure incarne mieux que les trois autres candidats toutes les contradictions de ce qu'on appelle la social-démocratie. Et tant qu'on ne redéfinira pas cette supposée social-démocratie, ou tant qu'on ne passera pas à autre chose, c'est-à-dire sans doute à un véritable socialisme, ce qui normalement devrait être la promesse d'un parti qui s'appelle Parti Socialiste, eh bien, on se retrouvera dans cette impasse parce que la social-démocratie telle qu'elle a été pratiquée depuis des décennies partout en Europe n'a été que l'acceptation du néolibéralisme tel qu'il existe aujourd'hui, avec l'idée qu'on allait soigner les grands blessés de cette mondialisation.
Ouais, alors c'est pas une affaire de mots, parce que la social-démocratie, originellement, c'est pas l'acceptation simple du marché, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux que le social-libéralisme qui nous a été servi pendant des années. Mais effectivement, il y a un problème structurel dans cet espace politique, en France et ailleurs en Europe, qui est qu'ils ont accepté, les sociodémocrates, de réduire la politique à de la gestion et à de la com.
Et c'est un hasard s'ils l'ont tous accepté. Ou est-ce que c'est intrinsèquement lié à la nature de la social-démocratie ?
C'est une très bonne question qu'on aura l'occasion d'explorer une autre fois. En l'occurrence, la page est blanche. Qui sait s'ils auront l'angoisse de la page blanche ou si au contraire, les socialistes deviendront graphomanes.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Et avant d'accueillir Jean-Pierre Le Goff, un sujet sur lequel vous vouliez revenir, Raphaël Glucksmann, en l'occurrence, c'était cette semaine la révélation de documents confidentiels par le journal Le Monde et qui pointent la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
Oui, et aussi la publication d'un livre, celui d'un ancien capitaine de l'armée, Guillaume Ancel. Et son témoignage fait suite au témoignage de plusieurs militaires français, dont Rémi Duval ou le héros, la légende du GIGN, Monsieur Prugnot, qui ne sont pas des gauchistes militants ou des intellos droits de l'homiste, et qui tous disent la même chose. Ils nous disent quoi ? Que la France a aidé des troupes génocidaires alors même que le génocide a eu lieu, en leur donnant des armes, et là c'est Ancel qui nous révèle ça, et même en leur virant, en leur versant directement leur salaire. Donc des gens qui venaient de tuer 800 000 Tutsis, eh bien, étaient payés par l'État français. Et donc, on se retrouve dans cette situation qui est que nous sommes face au plus grand scandale de la Ve République et aussi à son secret le mieux gardé. Et donc, le secret commence à être érodé grâce au témoignage de ces militaires. C'est un moment extrêmement important. Vous savez, moi, j'ai passé des années à enquêter sur le Rwanda. Et on sait aujourd'hui que la France a armé et a soutenu des troupes qui allaient commettre un génocide avant le génocide, qu'elle a continué à les soutenir pendant le génocide et qu'elle a même continué à les soutenir et à les armer après le génocide. Et donc là, on est face à un vrai scandale d'État et l'État français a toujours pas été capable de faire la lumière sur son passé. Les archives ne sont toujours pas totalement déclassifiées et il n'y a toujours pas eu de véritable discours sur ce que la France a fait au Rwanda.
Natacha Polony.
Je pense en effet qu'il est nécessaire d'ouvrir les archives, de les déclassifier, qu'il est nécessaire d'essayer de regarder en face ce qui s'est passé à ce moment-là et qui n'a rien finalement d'une distinction entre des méchants et des gentils. Malheureusement, on est typiquement dans le genre de cas où on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds et hélas, la France sans doute participer à cela.
Quel salaud et quel autre salaud ?
C'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants dans cette histoire et la dérive.
Non, mais il y a eu un génocide.
Oui, bien sûr, il y a eu un génocide.
Un génocide, c'est il y a des bourreaux et des victimes.
Bien sûr.
Il faut arrêter de maintenir tout le temps ce gris. Je veux dire, il n'y avait pas des salauds face à des salauds. Il y avait
et aujourd'hui, face à un régime qui est un régime qui est devenu totalement dictatorial et qui accomplit là aussi des exactions vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis de l'ensemble des oppositions. Et hélas, nous sommes dans cette situation-là qui est consternante et effarante. Et il ne s'agit pas, ça n'est absolument pas à remettre en cause le génocide que de dire qu'il y a ce fait-là et que malheureusement la France a participé en sans doute, et c'est cela qu'il faut prouver, en donnant des armes, en choisissant un camp là où il ne fallait pas choisir
mais
un camp, mais aider et empêcher les massacres.
eh bien, aider à empêcher les massacres, ça aurait supposé eh bien, de choisir de s'opposer à ceux que nous avons soutenus. Parce que ce ne sont pas des salauds face à des salauds. Jamais on ne dirait, en 1900, alors que pourtant les troupes russes, les exactions des troupes russes soviétiques libérant l'Europe à Berlin sont absolument énormes, bien plus grandes que celles du FPR, puisqu'il est question de au Rwanda. Jamais on ne dirait ce sont des salauds face à des salauds. Non, ce ne sont pas des salauds face à des salauds. Il y a un régime tout à fait détestable aujourd'hui au Rwanda, il n'est pas génocidaire. Et en 1994, il y a des gens qui commettent un génocide et des gens qui sont victimes du génocide. Et la France, malheureusement, et c'est notre honte, et c'est là-dessus que nous devons faire la lumière, la France a choisi d'être du côté de ceux qui commettaient le génocide. Ça veut pas dire que la France a voulu le génocide, mais ça veut dire qu'à aucun moment, le fait qu'il y ait génocide n'a entraîné de remise en cause de la politique française. Ce n'est pas des salauds face à des salauds, c'est des bourreaux face à des victimes, on a choisi le camp des bourreaux.
On ne définit pas les gens par bourreaux et victimes.
Si, en l'occurrence, dans un génocide, on les définit par bourreaux et victimes.
Le grand face-à-face sur France Inter.
13h33, le grand face-à-face continue avec le débat de la semaine. 50 ans plus tard, que reste-t-il sous les pavés? C'est le fil rouge d'une semaine spéciale qui démarre sur l'antenne de France Inter. Semaine consacrée, vous l'avez compris, à mai 68. Alors la règle du jeu, ni commémoration, ni célébration, mais place au débat. Et notre invité jusqu'à 14h, il est philosophe, sociologue, l'auteur de mai 68, un héritage impossible, c'était il y a 20 ans, et un livre qui a largement contribué à fixer les termes du débat sur la question. Bonjour Jean-Pierre Le Goff.
Bonjour.
Et bienvenue. 20 ans après, changement d'optique, vous publiez chez Stock La France d'hier, récit d'un monde adolescent, récit aussi de votre adolescence des années 50 à mai 68. On va en parler longuement tout à l'heure, mais c'est assez étonnant. Comme Daniel Cohn-Bendit qui ne veut pas en parler mais qui en parle encore, vous ne vouliez pas y revenir et malgré tout vous écrivez un livre sur la question.
Oui, parce que je pense que c'est cet événement, si je prends mai 68 comme événement, est devenu assez incompréhensible. C'est-à-dire, pour une partie des nouvelles générations, c'est vraiment de la préhistoire, quoi.
Oui.
Alors, on oscille toujours entre fascination et rejet. Tout le problème depuis 50 ans, c'est de trouver la bonne distance. Pourquoi j'ai écrit ce livre alors que j'ai horreur de parler de moi d'une certaine façon? C'est que je pense que c'est par le récit qu'on peut mieux rendre compte d'un climat d'époque. Et par rapport à ce que j'avais écrit, j'ai surtout insisté sur l'héritage impossible.
Il y a 20 ans, quand vous écriviez, voilà. Oui, l'héritage impossible.
Voilà. Là, je pense qu'il faut revenir sur les conditions qui ont rendu possible l'événement avant même l'événement, pour essayer de le comprendre. Parce qu'au-delà de la célébration, ce qui compte, c'est d'essayer un peu d'éclairer cet événement qui, à beaucoup d'égards, apparaît totalement iconoclaste et très difficile à penser. C'est-à-dire qu'il s'inscrit à la fois dans la lignée historique de la Révolution française, et en même temps, on voit que c'est un truc qui fait tout, enfin, qui va faire un peu exploser tout ça. Quoi.
Un truc
bizarre.
Est-ce que vous diriez que ce truc bizarre, mai 68, aujourd'hui, est toujours l'objet d'un héritage impossible, Jean-Pierre Le Goff?
Oui, mais alors il a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases pour arriver où on en est. Il y a une première phase qui était la phase de la flambée gauchiste, je dirais 68-73, avec le maoïsme, le trotskisme, et l'idée d'une révolution qui pouvait sembler, après mai 68, crédible, surtout quand vous étiez jeune. Bon. Et puis très vite, ça s'est cassé la figure. Dès 74-75, vous avez un retournement de la situation avec la fin des Trente Glorieuses et avec la montée des thèmes écologiques où c'est l'utopie ou la mort. C'est pas totalement l'utopie responsable de mai 68, c'est le choix vite vu, si vous voulez. Hein. Et en même temps, il va y avoir une désillusion terrible, c'est-à-dire que le messianisme révolutionnaire va en prendre un sacré coup dans la figure, excusez-moi, avec les fait Solzhenitsyn, le goulag, et donc on a un renversement à ce moment-là de l'histoire, et c'est ce que j'ai appelé dans ce moment-là le gauchisme culturel qui était présent en mai. Qu'est-ce que le gauchisme culturel en quelques mots?
Oui, définition.
C'est que ça déplace la question sociale vers les questions sociétales. Et ce gauchisme culturel était déjà présent en mai, il se mêlait à la dimension révolutionnaire, et à un moment donné, c'est lui qui va finir par triompher. J'y rajouterai un troisième moment, c'est l'institutionnalisation de ce gauchisme culturel par la gauche autour des années 1980. Voyez. Donc, moi, ce qui m'intéressait, après avoir dit tout ça, quand même, c'était de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé avant, et trouver, arrêter le mythe. En même temps, on est coincé, parce que il y a d'un côté un mythe et de l'autre côté des revanchards. Enfin bon, avec une droite quand
et
même.
Et puis, il y a le jeune homme que vous étiez à l'époque, qui avait à peine 20 ans et qui regarde cette époque avec nostalgie.
Bah, nostalgie, alors on dit il faut pas faire de preuve de nostalgie, je vais vous dire, pourquoi la nostalgie fait partie nostalgie. Des grands sentiments humains, faudrait revirer la poésie, la littérature, bon, mais moi si vous voulez, c'est pas tellement, le problème de la nostalgie ne se pose qu'en politique, pour moi ça c'est pas possible en politique, enfin ça fait partie des grands traits de l'humanité.
Mais il me semble que ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est le fait que, justement, vous ne nous récitez pas un couplet nostalgique, vous essayez de comprendre ce qui était à l'œuvre dans cette société, ce qui la travaillait, c'est-à-dire la question de l'émergence d'une société de consommation, d'une société de loisirs. Et vous montrez très bien comment vous-même, enfant et jeune garçon, n'avez pas eu le même rapport au monde que vos parents, que tout ça. Et c'est cela qui nous permet de comprendre que mai 68 n'est pas en soi un moment surgi de nulle part, mais qui c'est le catalyseur de tout ce qui était en train de travailler la société française.
Jean-Pierre Le Goff.
Je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en fait, avant 68, c'est ce que j'ai appelé la France entre deux mondes. Et il n'y a pas que la France, d'ailleurs, les pays européens. C'est-à-dire, on sort, en gros, d'une question qui était centrale des sociétés, qui était le paupérisme, qui datait du 19e. On n'est pas bon, il y a des inégalités, mais on est en train, globalement, de sortir de ça. Et en même temps, il y a des restes du 19e siècle, et on arrive dans une société inédite historiquement, une société, vous l'avez dit, de consommation, de loisirs, et j'ajouterai du début de ce qu'on appelle les mass-médias. Mmh. Et donc, mai 68, quand vous regardez le moment, d'ailleurs, un peu... qui est un peu effervescent, vous avez à la fois une angoisse sur la société qu'on quitte, avec en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle société? On est des robots, il y a la publicité, il y a l'aliénation, qui est un mot très fort dans la commune étudiante. Oui. Et puis en même temps, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. C'est-à-dire qu'on veut en même temps se débarrasser du moralisme,
formidable
en même temps se débarrasser du paternalisme ancien, puis en même temps où on va, quoi. Et c'est ce moment charnière, 68, de ce que j'ai appelé le passage cathartique, si on veut, de l'ancien au nouveau monde.
Raphaël Glucksmann.
Non, c'est extrêmement intéressant justement le côté récit, et je pense que ça nous apprend au-delà de cette polémique entre les mystificateurs, ceux qui regardent 68 comme un totem, et ceux qui font de 68 la mère de toutes les catastrophes. Ça permet de comprendre l'événement en tant que tel. Or, ce qui est intéressant de 68, c'est aussi que c'est un événement, c'est-à-dire que c'est produit par des dynamiques sociales, mais c'est une brèche, c'était le titre du livre de Edgar Morin et Lefort et Castoriadis à l'époque, qui est à mon avis sur l'époque un des plus beaux livres écrits sur 68. Et cette brèche, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on lui impute peut-être trop de choses. C'est-à-dire qu'on la rend, par exemple, responsable de l'avènement d'une société libérale individualiste, alors que c'est plutôt les suites, pour moi, de 68 qui sont à questionner, en fait. C'est-à-dire que l'événement en tant que tel ébranlait des structures et des mythes qui ne correspondaient plus à la réalité sociale et à l'imaginaire des gens, n'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème, c'est que une fois qu'on a ébranlé des mythes, une fois qu'on a ébranlé des structures, eh bien, il faut reconstruire un récit collectif ou un récit commun. Et c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire qu'on a accepté le vide qui était laissé par une révolte qui était parfaitement justifiée, en tout cas.
Jean-Pierre Le Goff.
Sur la question de la brèche, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sur la question de la brèche, oui, effectivement, moi j'avais lu effectivement ce texte à l'époque, je trouvais qu'il se démarquait. Je l'ai relu. Je trouve qu'il y a une dimension utopique à travers le terme autogestionnaire qui peut tout à fait se comprendre à l'époque, étant donné le type de pouvoir, les restes du moralisme, etc. Donc, il y a un moment où ça fait du bien, si vous voulez. Comme alternative politique, je serais beaucoup plus critique, parce que quand vous regardez Castoriadis et par exemple Claude Lefort, où la division principale c'est dominant-dominé dans une société complexe, effectivement, il y a une utopie 68arde, le terme autogestion va le condenser. Parmi les auteurs, moi j'ai redécouvert, si vous voulez, quelqu'un que je vous conseille la lecture, s'appelle La Révolution introuvable, rien que le titre, je trouve ça très bon. Et je dois dire qu'en relisant La Révolution introuvable, il était absolument inaudible à l'époque, Raymond Aron. Pourquoi? Parce qu'il faut le voir, le délire collectif, enfin des trucs très durs, on ne pouvait pas l'entendre.
Non.
Mais n'empêche qu'aujourd'hui, relisez-le au calme et vous verrez qu'il dit d'abord, la révolution est introuvable, il y a une utopie. Et à un moment, il pose la question, psychodrame, parce qu'il insiste beaucoup sur la dimension psychodrame, parce que je pense qu'effectivement, il y avait une dimension psychodramatique. Hein, et ou crise de civilisation. Et ça, je
très
trouve que
question.
Cette question, au moment...
Et d'ailleurs, vous ne la tranchez pas vous-même
Non, je la tranche pas, parce que je pense que, d'ailleurs, Pompidou avait une comparaison Moi, j'ai relu aussi Pompidou, ce que font pas les 68 heures, si vous voulez.
Mais parce que ce qui est formidable, c'est que vous dites que c'est la victoire du gauchisme culturel.
Après.
Oui, mais qu'est-ce qui suit mai 68? Ben, c'est Pompidou. En 74, les Français votent pour Giscard. Enfin, on est quand même loin de cet élan révolutionnaire, non?
Non, parce que je pense que les élites, c'est un truc où on savait pas quoi en faire. Même De Gaulle disait, c'est comme de l'eau, ça me passe, j'arrive pas à saisir ça. Et personne à l'époque ne saisissait ça vraiment, parce que d'un côté, vous aviez une relecture type révolution de 1905, répétition générale. Bon, et alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On savait que c'était une révolution, on savait pas ce que ça voulait dire. Alors je crois qu'il faut faire attention à une chose dans les relectures, c'est pas relire l'événement à partir de son héritage impossible et un point d'arrivée. Parce que le point d'arrivée final pour moi, qui n'est pas du tout la même chose que 68, qui est quand même l'institutionnalisation du gauchisme culturel par la gauche au pouvoir à un moment où il change de politique économique, si vous voulez. Bon, il y a ce moment-là où finalement le gauchisme culturel va servir de substitut.
Mais regardons mai 68 depuis aujourd'hui, depuis 2018. Natacha
Polony. Disons que la question peut-être, c'est celle de savoir si mai 68 et ses suites étaient inévitables. C'est-à-dire quel est le rapport entre ce moment-là et ce qui s'est construit petit à petit sur la question de l'individu depuis l'humanisme et les Lumières. Est-ce que les Lumières devaient aboutir à ce que nous vivons aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un moment où les choses ont bifurqué?
Ah ben je crois que pour moi les choses sont claires. Je pense qu'il y a une droite revancharde fondamentaliste qui, derrière le règlement de compte de mai 68, d'ailleurs j'ai l'occasion d'en débattre assez vertement, eh bien oui, il y a un règlement de compte des Lumières, mais les Lumières, c'est déjà le totalitarisme, c'est déjà, et mai 68 n'est un moment des Lumières, qui est un moment des Lumières, mais alors vraiment qui serait un peu l'histoire de vérité enfin des Lumières, c'est un peu Joseph de Maistre vis-à-vis de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de providence à l'envers, si vous voulez, depuis les Lumières. Et donc on voit ressurgir de façon minoritaire, mais réelle, une droite, que je croyais, moi, quand même, assez... pas disparu, mais
vous
enfin...
Vous parlez
bon...
de Patrick Buisson?
Oui, 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 avec récemment, qui j'ai eu l'occasion de débattre assez vertement. Je dois dire que j'ai été même étonné. J'ai été étonné d'un... Bon, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'il assume une position très claire. Ça, je trouve ça. Mais même, je ne m'attendais pas à entendre un certain nombre de choses. En fait, le règlement de compte 68, c'est bien au-delà. C'est les Lumières depuis la Révolution française.
Bien sûr, c'est ça qui est derrière. Au-delà.
Non mais oui, bien sûr, parce que mai 68 s'inscrit dans cette série d'événements qui sont quand même traditionnels de l'histoire française depuis en tout cas la Révolution française, c'est-à-dire ces révolutions, à chaque génération, en fait, on écrit les confessions d'un enfant du siècle de Musset et on descend dans la rue pour dire que l'ancien monde est mort et qu'un nouveau monde doit advenir et qu'on se retrouve entre les deux.
Mais est-ce une révolution ?
Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir, en fait, c'est pas une révolution dans le sens classique. C'est-à-dire que le militant professionnel, le parti révolutionnaire, une vision bolchevique de la révolution, évidemment, mai 68, c'est pas une révolution. C'est pour ça que les trotskistes ont été hyper déçus par les suites de 68, parce que c'était pas une répétition générale. Mais c'est par contre
qu'est-ce
intéressant.
Qu'est-ce qui vous fait sourire, Jean-Pierre Le Goff?
Non, mais je disais les Mao aussi. Moi, j'ai été jusqu'au bout, la classe ouvrière, mais enfin, de façon très sacrifiée.
Mais par contre, quand on regarde aujourd'hui les mouvements politiques innovants de type la place Tahrir, Maïdan, ou les autres mouvements politiques, il y a des héritages assez marquants de ce refus des partis politiques, de ce spontanéisme de la manière dont les révolutionnaires vivent leur propre révolution, et il y a comme ça un événement laboratoire d'une forme d'investissement politique et civique qui n'est pas moulable dans les moules traditionnels, c'est-à-dire qui ne refuse la figure du chef, qui refuse la figure du parti traditionnel, qui refuse la figure
de l'idéologie.
Laissez
Jean-Pierre Le Goff vous répondre. Lui qui avait 20 ans à l'époque, est-ce que c'était ce que vous viviez à l'époque, ce que décrit Raphaël Glucksmann?
Là, c'est une interprétation que je respecte, mais je vois les choses beaucoup plus, j'allais dire, au ras des pâquerettes. Il y a quand même une question en 68, c'est la montée en puissance du peuple adolescent. C'est-à-dire du fait qu'il y a une scolarité prolongée, si vous voulez, ce qui était antérieurement une étape transitoire entre l'enfance et l'âge adulte va d'abord s'élargir à des catégories beaucoup plus importantes. Et vous avez ce phénomène des campus où vous vivez dans un... Je veux dire, pas un microcosme, enfin, bon, les nouveaux campus à Nanterre, vous vivez avec des étudiants, etc. Donc, cette culture dont le rock, la musique, Dylan, etc. était un élément de vecteur très important, eh bien, cette culture est fermante, si vous voulez, dans ces lieux-là. Moi, je vois, dans 68, deux choses. La montée en puissance du peuple adolescent, avec quelque chose qui, pour moi, est problématique, c'est là où on peut se différencier, l'adolescence va s'élever en nouvelle structure de comportement. C'est-à-dire qu'elle va sortir de la question d'un âge transitoire de la vie. Alors, on peut prendre tout... Qu'est-ce que c'est, finalement, l'adolescence? Tout est possible tout le temps, si vous voulez. Bon, le rêve, l'imagination... C'est très important, la révolte, la posture de la révolte. Et on va arriver en fin de course au mutin de Panurge du regretté Philippe Muret. Donc il y a un moment où ce qui prend sens dans une révolte cathartique avec le peuple adolescent, et tout d'un coup cette chose-là, au terme de tout un processus, devient un nouveau conformiste de masse qui se présente sous les traits de l'anticonformisme.
Il y a d'ailleurs
Natacha Polony. Comment dire,
le rapport entre les âges est quelque chose qui normalement n'était pas conçu comme ça dans l'histoire de l'humanité, où on voyait, où disons l'adolescence n'était qu'un moment extrêmement court et transitoire, puisque le but de l'humanité était d'arriver à l'âge adulte, le but de tout être humain, et l'ensemble des sociétés est organisé autour de rites de passage qui permettent de construire l'arrivée à l'âge adulte. Or c'est ça qui a sans doute été détruit.
Tout a été sauté.
Et peut-être que tout l'enjeu...
Sur ce point-là,
Et tout l'enjeu, c'est sans doute aujourd'hui d'essayer de penser, de repenser ce rapport entre les âges à la fois de la vie individuelle et de la vie collective, et donc de reconstruire un lien avec le passé à travers une transmission, tout en permettant de garder les acquis qui sont ceux de mai 68 comme ceux des Lumières, c'est-à-dire l'individu, la possibilité de construire sa propre vie.
Je suis assez d'accord avec vous. Je suis très justement à Ron. Le culte de la jeunesse est une manière pour les adultes de se donner l'illusion qu'ils n'ont pas vieilli. Je trouve ça assez juste. Et ce qui va se passer, c'est pas simplement le peuple adolescent qui est en question. C'est le fait que les adultes et les élites ont pas fait face à un moment donné. Et on fait du surf sur des évolutions problématiques, y compris les élites politiques.
Mais c'est que vous êtes devenu conservateur.
Ah oui, je suis conservateur à l'intérieur de la modernité.
Exactement, Raphaël Glucksmann, donc la lecture de mai 68...
C'est très bien, une société a besoin de conservateurs et de progressistes, et c'est le débat entre les deux qui fait une société démocratique.
Mais je vais rappeler le nouveau magazine littéraire qui faisait sa couverture sur ce sujet, mai 68, plébiscité par les Français.
Non, mais parce que... Moi, notre point de divergence, c'est que je ne suis pas d'accord que l'adolescence ait réellement gagné. C'est-à-dire que elle a gagné dans plein de domaines culturels, mais nous vivons quand même dans une monarchie républicaine, la Ve République. Les structures politiques n'ont pas évolué. La France reste le pays le plus vertical d'Europe. C'est pas vrai que son école est devenue ultra permissive. Quand des Suédois ou des Finlandais arrivent en France, ils s'étonnent du fait qu'on donne des notes à des enfants de 6 ans.
Oui, donc, mais à côté de ça, nous avons l'école la plus problématique sur le plan de la discipline dans tous les pays de l'OCDE.
Mais ce que je veux dire, donc, c'est que on est, c'est très bien d'être schizophrène, on est un peu dans une forme de schizophrénie, et que une part de la révolte adolescente, à mon avis, est plus nécessaire que jamais. C'est-à-dire que l'âge adulte qui considérerait, en gros, qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ainsi, et que, évidemment, s'il y a des inégalités. S'il y a des inégalités, c'est ça qu'on explique. C'est que il y avait une part d'utopie. Non, mais il y avait une. Non, parce que j'ai pas eu la parole pendant longtemps et on a expliqué. D'un côté, il y a une conversion au libéralisme, de l'autre, il y a une part d'utopisme.
Avec Jean-Pierre Le Goff.
Je pense que l'utopie est une mentalité assez adolescente, si vous voulez. Tout dépend ce qu'on entend par une société démocratique et comment on définit la politique dans une société démocratique. Ce qui s'est passé en 68, qu'est-ce que l'utopie? Ça mélange tout, si vous voulez. Si vous êtes pour l'Europe, vous êtes obligatoirement de gauche. Ça, c'est automatique. Et c'est plus vrai maintenant. La preuve, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont pour l'Europe et je veux dire, ils sont pas de gauche.
Mais on en parlait pas.
L'esthétique. Oui, mais l'esthétique. Il y avait une espèce d'identité de gauche qui, à mon avis, perdure et qui faisait que tout était un bloc. Il y avait des conceptions du monde, il y avait des valeurs, il y avait une morale, etc. Tout ça a évidemment éclaté et je trouve que c'est peut-être un aspect de l'avancée démocratique, puisque moi je considère la politique, si vous voulez, en fonction de la crédibilité de ce qui est proposé dans un champ des possibles à un moment donné. Vous voyez, c'est une définition qui n'est pas utopique. Alors, soit vous avez l'utopie, soit vous avez le messianisme, soit vous avez... Mais c'était quand même mieux avant, et si on pouvait retourner en arrière au bon vieux temps supposé,
Mais c'est pas ça la solution. Est-ce que vous comprenez que mai 68, que la perception de mai 68 soit à ce point enthousiaste que mai 68 soit plébiscité par les Français.
Bon, alors je vais pas discuter du sondage, si vous voulez.
Mais si.
Non, parce que bon, c'est évident qu'il y a une évidence, sauf pour un petit groupe de droite, traditionnalisme. Enfin, c'est vrai que les hiérarchies sclérosées, bêtes. Bon, les gens ont compris, si vous voulez, l'obscurantisme concernant la sexualité, le moralisme, tout ça, ça fait. Je veux dire, ça, c'est des acquis. D'ailleurs, même ceux qui critiquent aujourd'hui traditionnellement avec un retour actif, quand vous regardez le comportement, ils sont totalement les enfants de 68. Par exemple, le président de la République qui disait liquider 68, quand vous regardez son style, si vous voulez, son style, et dans la question des mœurs, bon, bah, c'est comme tout le monde. Même les traditionalistes, ils ont des genres, c'est pas du tout, si vous voulez, contrairement à ce qu'on a raconté, c'est pas les chemises brunes qui marchent au pas, etc. C'est beaucoup plus cool que ça, et c'est beaucoup plus patchwork que ça. C'est pour ça que c'est plus subtil, c'est-à-dire c'est des traditionnalistes dans la post-modernité. Et ça, c'est très difficile à comprendre, c'est pas tout à fait les mêmes qu'avant, vous voyez.
C'est pas les mêmes qu'avant, mais dans 68, il y a autre chose que cela. Il y a aussi cette part d'utopie que vous critiquez, et il me semble que dans notre société aujourd'hui, on souffre largement d'une conception de la politique comme quelque chose de responsable et de gestionnaire, et non plus comme une puissance de transformation de la société.
Oui, alors ça, c'est une question de fond sur la politique aujourd'hui. Ma position est la suivante. La politique démocratique n'a pas besoin d'utopie. L'utopie, je préfère que ça soit un genre littéraire. Et que ça reste un genre littéraire, parce qu'on sait ce que ça a donné. Et moi, ça, je vais y retourner.
Si enfin, ça a aussi donné des rêves, ça a aussi donné des enthousiasmes.
Ah non, mais attendez, ne confondons pas. Mais oui, mais le rêve, c'est très bien. Mais en politique démocratique, moi, je veux bien faire de la politique avec du rêve, où je ne sais plus qui dit, on s'assoit, c'est l'agora, ça y est, on refonde la politique. Je trouve que c'est beaucoup de paroles, et que vraiment ça n'a pas beaucoup de crédibilité dans une société complexe, développée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, qu'il y ait une autonomie de la société, mais on n'est pas dans la démocratie des anciens par rapport au moderne. C'est-à-dire qu'il y a un état de droit, il y a une démocratie représentative. Mm-hmm. Alors si on pense la question de la démocratie directe, il faut la mettre après tout ça. Vous voyez, mais pas avant. Qu'est-ce qu'a fait 68? Ça se comprenait dans l'époque parce qu'on avait des pouvoirs autoritaires, etc. Eh bien, elle a dit la vraie démocratie, c'est l'horizontalité, tout le monde parle, etc. Avec un flot de paroles quand même qui était lié à une nouvelle société assez bavarde et qui croit qu'on a transformé le monde quand on a beaucoup bavardé sur elle, si vous voulez. Bon, ça, c'est quand même un trait de 68.
Natacha.
Disons déjà que peut-être la politique aujourd'hui a besoin d'idéal plus que d'utopie, et que la question est de savoir comment on reconstruit une véritable démocratie. Parce qu'un des paradoxes de ce monde d'après 68, c'est d'avoir, au nom sans doute des idéaux portés en 68, fait émerger un monde qui n'est absolument plus tout à fait démocratique, dans la mesure où c'est un monde qui a réduit le champ des possibles et qui estime qu'on ne peut plus penser que dans un cadre qui est le cadre d'acceptation de l'économie telle qu'elle est. Or ça, c'est un paradoxe post-68.
Bah, le problème, c'est que je pense qu'on reste en démocratie.
C'est pas un problème, ça, c'est plutôt...
C'est une divergence, parce que vous avez un courant de droite qui vous dit c'est le totalitarisme. Faut pas rigoler, on n'en serait pas là à discuter, je veux dire. Faut faire attention aux notions. Bon, par contre, il y a une logique que j'appellerais d'affaissement interne de la démocratie, c'est-à-dire de la perte de sa dynamique démocratique. Alors, le problème de la politique, c'est que, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'utopie, il reste un idéal régulateur, qui est toujours en décalage, et moi je suis très républicain de ce point de vue-là, avec la réalité, mais si on le perd, on sait vers quoi on va aller, vers le communautarisme, etc. Mais je pense qu'il y a une façon de faire de la politique où c'est la question de l'histoire et de l'avenir discernable, c'est-à-dire du fil historique du pays entre son passé et son avenir. Ce fil a été rompu en 68. Et à mon avis, il n'a pas été recousu depuis.
Mais voilà. Vous étiez heureux, malgré tout, de vivre ces transformations. Vous étiez heureux de vivre ces événements, Jean-Pierre Le Goff.
Oui, bah écoutez, oui, parce que ça faisait
quand
beaucoup,
on vous lit,
ça faisait
c'est
beaucoup
oui
de bien.
Et 10 fois oui. Et aujourd'hui, vous le regardez avec beaucoup de distance. Écoutez, Raphaël Glucksmann, est-ce que vous, par exemple, vous regrettez de ne pas avoir vécu quelque chose comme un mai 68?
On ne va pas regretter de ne pas avoir vécu le passé.
Ah bah, c'est une vraie question.
Ça serait ridicule de vouloir singer 68. Ouais. On vivra sûrement quelque chose.
Natacha, vous le regrettez ?
Non, je suis à peu près sur la même position. La question est de savoir de ce qu'on construit aujourd'hui. Mais c'est pas de se dire j'aurais aimé vivre à telle époque.
Sur le fil historique dont vous parlez et qui aurait été rompu par son. Ouais. Mais tout au long de l'histoire de France, il y a eu ces ruptures-là. Il y a eu des ruptures. Et c'est comme ça qu'en fait, on a l'histoire dont on hérite. C'est avec ces moments de rupture. Moi, c'est pour ça que je pense que le problème, c'est
parlez
pas...
Parlez bien dans le micro, Jean-Pierre Leboeuf.
C'est pas 68. C'est-à-dire que 68 comme rupture
c'est le sujet du débat du jour.
Non, mais c'est 68 et ses suites, le débat du jour. Mais le rupture du fil historique, le refus de la continuation fait partie de l'histoire de France. Et peut-être encore plus que de l'histoire de nos voisins. Et le problème, c'est la suite. C'est-à-dire que la génération suivante, en fait, celle des Hollande et des Sarkozy, a considéré que la politique, finalement, ça ne servait plus à rien. Et était très contente dans le vide.
Enfin, le problème, je suis d'accord, d'ailleurs la modernité secrète sa propre autocritique d'une certaine façon. Mais le problème de 68, c'est que c'est à la fois dans la continuité, dans la discontinuité, parce que les barricades, franchement, en 1968, c'est une remise en scène de tout un passé qui existe depuis la Révolution française, au même moment où la société est en train de basculer. C'est ça la dimension de la catharsis. Donc il ressemble aux autres moments de coupure, d'une certaine façon, mais il fait basculer, je dirais pas vers une postmodernité, mais pas loin. Il va arriver à cette idée que finalement, et le problème, moi je dirais la question qui est posée, qui reste en 68, bon je vais pas reprendre la formule du général de Gaulle, mais
allez-y.
Qu'en est-il de ce cher et vieux pays? D'où vient-on et où on va? Et De Gaulle et les élites
les
modernisatrices.
Les Français sont des veaux, vous auriez pu dire aussi. Les Français sont des veaux.
Ça, c'est plus anecdotique, mais la dimension
le problème, c'est qu'on a,
de savoir d'où l'on
si
vient.
Vous voulez, les élites modernisatrices de l'après-guerre ont tenté de jouer la modernisation, l'entrée dans une nouvelle étape, en maintenant le fil historique de la France. Eh bien, il y a un moment où le basculement, l'équilibre qui était déjà instable avant 68, eh bien, il va basculer vers autre chose.
Et peut-être d'ailleurs que, et c'est ça qui ressort de votre livre aussi, c'est que autour de cela, il y a l'industrialisation de l'ensemble des processus, la destruction de l'agriculture par le remembrement, et tout ça est arrivé au même moment, et c'est ça qui a rompu le fil. Et on voit une société qui est tombée, qui a sombré dans les oubliettes de l'histoire, mais c'est aussi, elle avait aussi des moments essentiels pour l'être humain, des moments stabilisateurs, et c'est cela qu'il faut peut-être repenser, parce que ça a été détruit.
Aujourd'hui, et je dirais que l'ancien monde dont vous parlez, il est très ambivalent. La grande difficulté qu'on a, c'est de penser que le progrès est toujours ambivalent. C'est-à-dire on y gagne sur un côté, on y perd sur l'autre, et que l'histoire est tragique, d'une certaine façon. Moi, j'ai écrit aussi ce livre pour que les jeunes générations comprennent que le monde avant 68, c'était pas le monde simplement de la pénombre, arrive la lumière, enfin tout, et que c'était pas simplement une rupture radicale, et que ce monde était dur. J'ai pas l'impression d'être nostalgique quand vous lisez le livre par rapport aux aspects durs de l'époque, hein.
Non, du tout.
Mais je veux dire, il était dur, mais il était humain. Si les nouvelles générations arrivent à comprendre ça, je pense qu'on aura contribué à renouer le fil.
Et il avait, Raphaël, ce qu'on sent fort, c'est il y avait une dimension collective qu'on perd aujourd'hui. Et ça, c'est le point qui va nous permettre de nous rejoindre à la fin de l'émission, parce que je ne suis pas sûr que ce soit 68 qui soit responsable de la perte de ce sens collectif. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin de collectif qui n'est absolument plus rempli par la politique ou par la vie civique.
Oui, non, mais là-dessus, il faut retrouver ce que vous avez dit. C'est-à-dire, on est arrivé à un point limite, si vous voulez, aujourd'hui, si j'ose dire. Ça ne veut pas dire revenir en arrière, parce qu'il y a toujours la tentation. Toujours la tentation, c'est pas simplement l'utopie maintenant, nuit debout, ou simplement le messianisme du progrès classique, mais il y a aussi le retour d'un moment qui serait miraculeux avant même la démocratie et la modernité. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est comment on renoue le fil de l'histoire. Pour moi, c'est l'essentiel.
Il y a quand même quelque chose d'essentiel, c'est la playlist de votre livre qui est absolument formidable, et ça passe de Dylan à John Baez et la filmographie, Pierrot le Fou, bref, c'était aussi ça, mais 68, et ça pour le coup, vous n'êtes pas du tout hostile.
Ah non, moi je pense que ça fait partie de la culture moderne. Bon, on va pas revenir aux anciens qui critiquent la décadence.
Merci Jean-Pierre Le Goff. La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68, c'est chez Stock. Et je vous rappelle donc cette semaine spéciale 68 jusqu'à vendredi prochain sur notre antenne. Raphaël, Natacha, je vous dis à dimanche prochain. Merci à Ophélie, Vivier, merci. À suivre Zoé Varier et sa journée particulière. Merci d'écouter France Inter, il est 14h.